souffrent pas, là, les poissons.
Ah non. Pourquoi qu'ils souffriraient?
Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Je n'arriverai pas, on est tous les frères, qui n'arriverait pas pour partir à la guerre. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que tu dis?
C'est une révolution.
Sort le P38 et le flic du flingue de glace. Les flics, la police, c'est le vice.
Et par des keufs se font paner, c'est connu. Dans le Parisien, t'as que des histoires comme as.
Moi du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand un frère meurt. Pour eux, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir poil.
Moi seul et unique.
Ah non, je vais prendre l'avion, je suis une cavatière.
Je crois qu'ils souffrent pas les poissons quand ils meurent. Mais c'est pas vrai. Ils ont mal. Mais ils arrivent pas à le dire.
Voilà, bonjour. Coucou.
Bonjour.
Donc vous êtes sur Radio Dio 89.5 FM et vous écoutez l'émission Le Numéro Zéro. Voilà, c'est un jeudi midi sur deux. Le Numéro Zéro, pour le répéter, le radoter et le rabâcher, c'est un média alternatif et participatif, qui existe sous trois formes. Un journal apparition très aléatoire, un site internet sur lequel tout le monde peut participer et publier ses articles, et cette émission de radio. Donc aujourd'hui, on avait envie de vous proposer une petite émission spéciale sur la condition animale, l'exploitation des animaux, et là, une réponse à ça, qui est le végétarisme et le végétalisme. Voilà. En gros, pour rappeler que le numéro zéro, l'émission, se consacre majoritairement à l'actualité des luttes et que nous, on voulait vous présenter cette lutte qu'est le végétarisme et le végétalisme, c'est-à-dire un peu, surtout, on l'a pris surtout sous l'angle d'une lutte politique, un combat parmi d'autres. Voilà, on va un peu vous présenter ça. Aujourd'hui, c'est plus comme une découverte et une initiation pour expliquer un peu le béaba. Donc, on aura d'abord un peu comme un exposé des explications. Mais qu'est-ce que c'est que le végétarisme, le végétalisme et pourquoi? Et ensuite, on aura une interview, une double interview de personnes qui sont végétariennes et végétaliennes et qui nous expliqueront leur point de vue et leur pratique. Voilà. Donc, bienvenue dans le numéro zéro.
Eh bien, on va commencer par des définitions.
Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter nos deux invités du jour, puisque c'est une émission participative. Nous sommes allés chercher des personnes passionnées, motivées. Donc, en plus de l'équipe habituelle, nous avons Mathilde et Madame Zaza.
Bonjour.
Donc,
bonjour.
Ils vont introduire l'émission avec ce fameux exposé.
Voilà, donc on va commencer par des définitions, parce que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Donc, une personne végétarienne ne mange pas de chair animale. La chair animale inclut la viande, la volaille, le poisson et même le jambon, les lardons et les fruits de mer. C'est bien de rajouter, parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Une personne végétalienne ou végane, en plus de ne pas manger de chair animale, ne consomme pas de sous-produits d'origine animale. Lait, œufs, fromage, également miel et n'utilise pas de matière animale comme le cuir, la laine, la fourrure, etc. Hormis ces deux grandes familles, on utilise parfois d'autres termes pour désigner des végétariens plus ou moins stricts. Les pesco-végétariens sont des personnes qui ne mangent plus de viande, mais encore du poisson. Les ovo-lacto-végétarienne désigne les personnes qui consomment du lait et des œufs, et les personnes véganes. Donc le mot vegan, c'est un terme utilisé depuis peu, traduit directement de l'anglais pour désigner une personne végétalienne. Alors, on peut également citer des régimes alimentaires plus ou moins proches du végétarisme, les crudivores, les personnes qui ne mangent que des aliments crus, fruits et légumes, et aussi parfois les viandes et poissons crus. Les fruitariens, qui ne mangent que des fruits, parfois aussi des céréales. Les macrobiotiques, régime basé sur la santé et l'hygiène, mais les macrobiotes consomment parfois de la viande.
Et j'y pense, ça tombe bien, c'est midi en plus, ça tombe bien, voilà, de parler de ça.
Bon appétit. Donc il y a certaines personnes qui arrêtent de manger de la viande parce qu'elles n'apprécient pas son goût, et c'est pour ça qu'elles abandonnent cette consommation. Je pense que c'est une motivation qui reste minoritaire. Et pour les personnes qui voudraient arrêter de manger de la viande, mais qui apprécient particulièrement la texture et parfois le goût, on peut trouver des produits végétariens de substitution, comme le tofu, le tempeh ou des choses comme ça. Mais pour revenir sur l'histoire du goût, il y a pas mal de personnes qui sont sensibles aux différents goûts de la viande. Par exemple, qui n'apprécient pas le goût du gibier, de la viande rouge. Et c'est pour ça en fait, qu'on trouve tout un tas de procédés pour modifier, voire même pour dissimuler le goût de la viande, comme des marinades ou des sauces. Et je pense aussi qu'il faut juste, par exemple, souligner par rapport à ce dégoût que peut engendrer la viande, le fait que les supermarchés soient super aseptisés, que la viande soit sous plastique, ce qui permet de ne pas incommoder les clients avec d'éventuels désagréments au niveau des odeurs des cadavres. Voilà.
Donc voilà, Cécilie. Les raisons peuvent également être religieuses. Donc, certaines religions préconisant la non-violence face aux êtres vivants, sensibles. Donc, par exemple, il y a l'hindouisme, qui est le fait de s'abstenir de violence en acte, en parole, même en pensée, en la commettant directement, en la commettant à d'autres ou en la consentant. Il y a aussi le régime ital des rastafariens, qui interprète dans le sens d'une abstention de viande, voire de tout aliment d'origine animale, l'interdiction de consommation de sang.
Alors pour résumer un peu, je pense qu'on peut dire que la plupart des végétariens et des végétaliens motivent leur rejet d'alimentation d'origine animale, surtout par le refus de tuer ou de faire tuer des animaux pour leur chair, mais aussi de les faire souffrir, et généralement aussi par le refus de cautionner moralement l'exploitation des animaux. Pour revenir un peu sur un aspect plus peut-être éthique ou philosophique, il y a des végétariens, végétaliens éthiques, qui considèrent que la majorité de la population mondiale ne se nourrit que de viande par tradition ou par commodité. Enfin, c'est une simple habitude. Et puis aussi, je pense qu'on peut parler de notion de plaisir. Mais pour ces personnes, ces justifications ne sont pas suffisantes par rapport à la souffrance occasionnée par la production de viande. Parmi ces différentes personnes qui peuvent avoir des motivations éthiques ou philosophiques, il y a le courant des antispécistes qui affirment que le critère de l'espèce à laquelle appartient un être n'est pas moralement pertinent pour décider de la manière dont on doit le traiter, du respect qu'on lui doit ou des droits qu'on lui doit accorder. Et pour résumer, en fait, le spécisme, c'est défini comme une forme de discrimination concernant l'espèce et qui est aussi mis en parallèle avec d'autres formes de discrimination d'un groupe sur un autre, que ce soit par exemple le racisme, qui est une discrimination sur la race, le sexisme, une discrimination sur le sexe, pardon, l'homophobie ou la lesbophobie, qui est une discrimination par rapport à l'orientation sexuelle, ou même le classisme, qui est une discrimination sur la classe. C'est pour ça que le rejet du spécisme apparaît souvent comme un mouvement porteur d'implications philosophiques, culturelles et politiques profondes, puisqu'il remet en cause tous les systèmes d'oppression. En pratique, le spécisme, c'est une idéologie qui justifie et qui impose la maltraitance, l'exploitation et aussi l'utilisation des animaux par les humains, de manière que si elles étaient pratiquées sur des humains, ce serait complètement inadmissible. Les animaux sont élevés, abattus pour fournir de la viande. Ils sont utilisés aussi comme modèle biologique dans les laboratoires et ils sont chassés pour le plaisir sportif. Et pour résumer, en fait, la lutte contre ces pratiques et contre l'idéologie spéciste qui les soutient est la tâche que se donne le mouvement de libération animale. Voilà. Je pense que Madame Zaza a quelques petites lignes à rajouter.
Oups. Oui, donc du coup, je vais vous lire quelques textes qui contiennent aussi des chiffres, qui argumentent un peu par rapport à l'antispécisme, en fait. Donc, un constat.
Donc, en France, 50 millions de poules pondeuses à qui l'on a souvent tranché le bec au fer rouge sont incarcérées à vie dans des cages minuscules où elles ne peuvent ni dormir ni étendre les ailes, mais seulement absorber une nourriture éventuellement issue de fosses septiques et de boues d'épuration. Les truies sont sanglées jour et nuit dans des stalles qui leur interdisent toute espèce de mouvement, et ce pendant 2 ans et demi. Des veaux de 145 kilos sont enchaînés dans l'obscurité en cases de 0,81 mètres. Des poulets dits de chair ont les flancs si hypertrophiés que leurs os ne les portent plus et qu'il leur est impossible de se déplacer. Au moyen d'un tube de 40 cm enfoncé dans l'œsophage, des appareils pneumatiques font avaler chaque jour 3 kg de maïs brûlant, l'équivalent de 15 kg pour un humain, à des canards et à des oies immobilisés dans des cercueils grillagés puisque de toute façon, ils ne peuvent plus se tenir debout. Pour finir, cette existence qui a surtout le mérite d'être brève, beaucoup seront transportés dans des conditions effroyables, entassés sans nourriture, sans soins, sans eau, au cours de voyages proprement étouffants, interminables et souvent fatals. Qui a vu cela ne l'oublie plus jamais. Pour ces millions, pour ces milliards d'animaux, le simple fait de vivre depuis la naissance jusqu'à la mort est un supplice de chaque seconde. Et ces régimes épouvantables leur sont infligés pour des raisons si mesquines qu'on a peine à croire que des êtres humains puissent s'en prévaloir sans honte. Une chair plus blanche, quelques centimètres gagnés sur un œuf, un peu de muscle en plus autour de l'os. Cruelle friandise, disait Plutarque. Ce que la souffrance animale laisse indifférent, fait sourire ou hausser les épaules au nom des priorités, devrait se demander si leur réaction ne ressemble pas à celle des adeptes de l'inégalité, partisans de l'esclavage jusqu'au début du XIXe siècle, ou des adversaires du vote des femmes, voilà à peine plus de 50 ans. Au Cambodge, au Rwanda, dans les Balkans et ailleurs, n'a-t-on pas fait valoir également une priorité entre les plus proches voisins de nationalité, de religion, de race ou de sexe pour envoyer les victimes à l'étrangeté, si possible, à l'animalité, afin de les éliminer plus facilement? Notre compassion est-elle si limitée qu'il faille établir des hiérarchies subjectives entre ceux qui méritent d'être sauvés en premier lieu, puis en second, puis plus du tout? Faudrait-il attendre qu'il n'y ait plus un seul Européen dans le malheur avant de se soucier des Africains ou que tous les humains soient comblés pour s'occuper des animaux? À quel odieux choix de Sophie serions-nous alors sans cesse confrontés? Donc, la cause des animaux a beaucoup avancé dans les faits comme dans les mentalités. Rien qu'en France, des dizaines d'associations la défendent et jamais elle n'a rassemblé dans le monde autant de militants. 90% des Français se réclament prêts à payer 15 centimes de plus un œuf de poule libre. Oui. Aux innombrables condamnés sans langage qui espèrent de nous des gestes qui ne viendront pas, nous n'avons à offrir que de bien piètres signes. On ne s'attend pas à ce que les Français deviennent tous végétariens, ni comme certains le demandent que les droits humains soient étendus aux singes. Mais quelle honte y aurait-il à faire un pas dans le sens de la compassion, à créer par exemple un secrétariat d'État à la condition animale, comme il y en a un à l'économie solidaire. La Belgique n'a pas craint de le faire. La Pologne a renoncé au gavage, la Grande-Bretagne a interdit la chasse à courre. Malgré sa politique agricole, l'Europe s'est déjà fait timidement, mais réellement penchée sur la question de l'élevage, de la chasse, de l'expérimentation et du bien-être. Tôt ou tard, on s'indignera massivement que des hommes aient pu torturer des animaux, même pour des raisons économiques, comme on s'indigne aujourd'hui des massacres romains, des bûchers, du chevalet et de la roue. N'est-il pas préférable que le plus tôt soit le mieux ?
Donc voilà, justement, Madame Zaza parlait d'économie et de politique. Moi, je voudrais revenir sur les motivations pour arrêter de manger de la viande qui peuvent être politiques, puisqu'il y a pas mal de personnes refusent de participer à cette logique capitaliste du tout rentable et qui mettent en avant des motivations politiques, dont se rejet de l'alimentation à partir de chair animale. Et juste au passage, rappeler que dans les années 20, le végétalisme était un outil de l'anarchisme. Pour parler un peu de ces motivations politiques, je pense qu'il faut rappeler qu'en France, l'industrie agroalimentaire est le premier secteur d'activité, avec plus de 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, et que, comme toutes les industries, elle est en recherche permanente de rentabilité, compétitivité, et finance ainsi les innovations, la recherche et le développement. Dans les laboratoires, on cherche toujours à produire pour cette industrie les animaux les plus gros et les plus gras possibles, en un minimum de temps, afin de faire de constants bénéfices, tout en leur ajoutant des antibiotiques, des drogues, des stéroïdes, des hormones de croissance, que ce soit à leur nourriture ou directement en injection. Et je pense qu'une petite visite par une usine de poules en batterie permettra de constater que les animaux ne sont que des produits de vulgaires commodités et d'avoir des cauchemars après assurés aussi. Juste, on peut se demander à quand la production de poules à quatre cuisses sans tête pour nous vendre toujours plus à moindre coût. Si c'était possible, je pense que ça se ferait. Je pense aussi qu'il faut noter que le fait de manger de la viande, c'est véritablement une idéologie avec un intérêt financier certain qui nous pousse et qui veut nous faire croire que la viande et consommer de la viande et des produits laitiers est indispensable à notre santé et à notre bien-être, ce que nous rappelle constamment la publicité qui cherche à flatter et séduire en permanence de nouveaux consommateurs. Juste pour parler de ce propos et l'illustrer, on pourrait prendre par exemple l'exemple de la marque Charal qui vend de la viande de bœuf et de sa nouvelle publicité. Une maman qui prend son enfant par la peau du cou, le ramène à la maison et puis à la cuisine et qui se retrouve à la cuisine et qui lui propose une viande Charal. Et donc la pub dit « car d'instinct, une mère, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le plus grand des carnivores ». Par ailleurs, en allant sur le site internet de cette même marque, on peut trouver un certain nombre d'articles pseudo-scientifiques qui vantent les mérites de la viande, notamment d'un centre d'information des viandes. Et je voudrais juste terminer par ça en disant que ce centre d'information des viandes affirme que le bon équilibre pour la consommation de viande est qu'en France, la consommation moyenne de viande est inférieure aux 500 grammes hebdomadaires que nous recommandent la santé publique. Donc voilà, c'est juste pour dire que jusqu'au bout, on nous vante les mérites de la viande et voilà. Alors que aux États-Unis, on sait que la première cause de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires à cause d'une consommation trop riche en cholestérol, en graisses saturées qui sont présentes dans la viande. Et juste pour conclure ce petit point, je pense qu'il est bon de rappeler que la croyance reste toujours que ce sont les végétariens et les végétaliens qui mettent leur santé en danger. À qui profite le crime ?
Boris Vian, il était végétarien. Et on va écouter une de ses chansons. Tout de suite.
Chanteur du Merlin, du Joyeux Boucher.
C'est chaud.
C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crève, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Allez. Alors, donc les motivations qui amènent à un régime végétarien, végétalien, peuvent également être liées à l'aspect écologique. En effet, l'élevage des animaux pour la consommation de viande a des conséquences désastreuses. Destruction de la forêt équatoriale, réchauffement du globe, pollution des eaux, rareté de l'eau, désertification, mauvaise utilisation des sources d'énergie, enfin dans le monde. Utiliser des terres, de l'eau, de l'énergie, des efforts humains pour la production de viande n'est pas une manière efficace d'exploiter les ressources de la terre. Depuis 1960, on a coupé et brûlé 25% de la forêt équatoriale afin de créer de la pâture pour le bétail. D'après une estimation, 100 grammes de hamburgers provenant du bétail de la forêt équatoriale détruit 16,5 mètres de forêt.
D'autres chiffres. La production de viande demande de très grandes quantités d'aliments de base, tels les céréales. Si on prend la totalité des terres cultivables mondiales, 60% sont consacrés à l'élevage, 27% sont consacrés à des cultures céréalières pour nourrir ces mêmes animaux. Il ne reste donc que 13% de terres cultivées pour nourrir les êtres humains en céréales, en fruits et en légumes. Je pense que c'est assez clair sur les conséquences écologiques. La nourriture, par exemple, consommée par les seuls bovins, permettrait de nourrir 8,7 milliards de personnes, soit plus d'humains qu'il y en a sur Terre. Si chaque humain consommait autant de viande qu'un Européen, c'est-à-dire environ 100 kilos par an en moyenne, il faudrait deux autres planètes pour pouvoir produire suffisamment de céréales, simplement pour pouvoir nourrir non pas les êtres humains, mais le bétail nécessaire. En outre, la production de viande consomme des quantités importantes d'eau, environ 100 000 litres pour produire un seul kilo de bœuf, mais aussi en termes d'espace, ce qui génère beaucoup de pollution. Selon un rapport publié par l'Organisation des Nations Unies, qui n'est quand même pas une organisation de sociaux-démocrates, n'est-ce pas, pour l'alimentation et l'agriculture, on déclarait que le secteur de l'élevage émet des gaz à effet de serre qui sont plus élevés que ceux produits par les transports. Et donc, il est une source de dégradation des terres, des eaux. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la Bretagne et la propagation folle de ces algues vertes qui sont extrêmement toxiques et par exemple même tué un jogger l'hiver dernier. Et tout ça juste en conséquence de la dégradation des eaux à cause de l'élevage intensif porcin. Voilà.
Voilà. Et du coup, si je ne me trompe pas, là, on passe dans le côté santé diététique. C'est ça ? Donc, voilà.
Ah bon ?
C'est à toi, déjà.
Donc être végétarien et végétalien, c'est dangereux pour la santé, c'est ça ?
Ouais, oui, non, je sais pas en fait. D'accord. Bon, bref. Mais je savais pas, j'étais pas au courant pour ce jogger l'an dernier en Bretagne.
Il est mort en juste faisant un jogging sur une plage. Donc après, il y a des gens, je suppose, qui mangent le poisson, qui sont sur ces plages, tout ça. Enfin.
Mais il s'est fait attaquer par des algues ?
Non, juste le fait de respirer en fait ces algues qui se propagent en fait dans tout ce qui est comme creek. Juste avec de la pollution de l'eau, en fait, c'est des algues super toxiques qui bouffent mais vraiment tout le reste. Et elles se développent à une croissance exponentielle. Et en quelques jours, en fait, toutes les criques sont recouvertes d'algues, donc les poissons meurent. Et même qu'un jogger est mort en faisant juste du jogging sur une plage, en fait.
Ok.
Bon, bah, en tout cas, on a compris que ce qu'on a dans son assiette et ce qu'on mange, c'est bien politique, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est ce qu'on a envie de dire dans cette émission. Mais manger, c'est pas que ça quand même. Enfin, faut pas exagérer non plus, quoi. Enfin,
ça doit être un plaisir.
C'est un plaisir, mais c'est aussi de la nutrition. Alors, moi, je voulais pas vous parler de diététique ou de santé à proprement parler, mais au début, je me suis dit, tiens, on va parler de nutrition, ce qu'on mange, tout ça. Alors déjà, commençons par dire ce que c'est la nutrition. La nutrition, en fait, c'est tout simplement l'assimilation par le corps humain, des nutriments, les aliments, quoi. Les nutriments, c'est ce qui est indispensable pour qu'un organisme vivant, en l'occurrence l'être humain par exemple, fonctionne bien. C'est-à-dire pour aller bosser, aller voter, aller à Disneyland et puis écouter Radio Dio. Enfin, à la pleine forme, quoi. Tu vois. Et donc, les nutriments, donc, on les trouve dans la nourriture. C'est les aliments et puis l'eau. On a souvent tendance à oublier l'eau, mais l'eau, ça fait partie d'un nutriment indispensable à la vie. Alors, pour faire simple, c'est la science vous parle un peu, quoi. Les nutriments, ils sont classés.
C'est pas sorcier.
Une
fois la vie.
Les nutriments, ils sont classés, ils sont différents selon la fonction qu'ils occupent. Par exemple, il y a les nutriments qui sont dits énergétiques, qui fournissent de l'énergie au corps. On retrouve les lipides là-dedans, les glucides, les protides. Voilà. Il y a les nutriments qui sont dits de régulation, pour réguler le métabolisme humain, quoi. Là-dedans, il y a les vitamines, les acides gras, les éléments minéraux et les oligo-éléments. Il y en a qui sont dits de constitution. C'est ceux qui fournissent pour réparer les tissus, par exemple, du corps humain, tout ça. Alors là-dedans, on retrouve beaucoup les protéines et les lipides. Et puis voilà. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, il y a l'eau qui sert à plein de trucs. Bon, bien sûr, chaque élément, chaque nutriment, comme ça, que je viens de décrire, a son importance. Et il paraît qu'il y a un équilibre à trouver, selon ce qu'on fait dans la vie, selon ce qu'on est, ou suivant l'âge qu'on a. Et on parle donc de repas équilibré quand chaque jour, tous les nutriments sont apportés à notre corps, et ce de manière équilibrée, c'est-à-dire ni trop, ni pas assez, juste ce qu'il faut et là où il faut. Autant dire qu'il s'agit d'une véritable mission pour atteindre cet objectif.
C'est technique, quoi.
C'est très technique. Et autant dire aussi que, bien entendu, des petites règles de base valent bien mieux que des dosages minutieux, quoi. Et les règles de base, on les connaît plus ou moins. Bon, faut pas oublier les protéines, le fer, le calcium et tout ça. Alors, un petit point précis sur les protéines. L'idée la plus répandue est que les régimes végétaliens manquent de protéines. Alors, en fait, ça, c'est un raccourci très malhonnête, en gros, quoi. Les protéines, alors petit point sur les protéines, alors hop, encore un truc technique, quoi. Les protéines, en fait, elles fournissent les acides aminés essentiels. Suivant les aliments, la proportion de ces acides aminés est différente. Le fromage ou le soja, par exemple, sont à haute valeur biologique. C'est ce qu'on dit, haute valeur biologique, parce qu'ils offrent une proportion presque adéquate en termes d'acides aminés. Mais beaucoup de légumineuses et de céréales sont bien moins équilibrées. Et pour pallier à ce déséquilibre, il est donc recommandé de consommer chaque jour des céréales et des légumineuses afin d'optimiser donc le rapport d'acides aminés. D'où les plats, alors c'est là où je veux en venir, d'où les plats complets végétariens que l'on retrouve dans de nombreuses traditions culinaires, en fait, comme les haricots rouges et les chips de maïs, par exemple, le couscous et les pois chiches, les lentilles et les noix de cajou, et la soupe de pois cassé et les croûtons de pain. Voilà. Donc voilà, et ça c'était pour la petite parenthèse protéines, en fait, pour un peu casser ces idées reçues là sur que les végétaliens manquent de protéines, ils n'arrivent pas à les trouver parce qu'apparemment il n'y a que la viande qui les fournit, ce qui est faux.
Bien sûr.
Voilà, alors en théorie donc tous les éléments indispensables peuvent être trouvés dans les végétaux, les céréales, les légumineuses, les graines oléagineuses et l'eau. Et voilà, ce qui satisfait donc beaucoup les végétaliens. Voilà. Ou les allergiques à la viande ou au fromage, par exemple. Donc voilà, la science nutritionnelle, par contre, recèle beaucoup de secrets, ou des problèmes plutôt. Par exemple, un excès de protéines, justement, diminue l'absorption du calcium et peut provoquer l'ostéoporose. C'est la fragilité des os. Attention! Les acides gras dans les graisses d'origine animale peuvent être responsables d'infarctus de myocarde ou le ramollissement du cerveau. Attention, l'excès de fer provoque l'hémochromatose ou la dépression. Donc voilà, en fait la diététique c'est, ou la nutrition, c'est plein de trucs à savoir comme ça. C'est souvent très compliqué et suivant les écoles, eh bien, les informations sont différentes et se contredisent complètement. Je vais me dépêcher. En fait, là où je veux en venir, c'est que je ne vais pas vous livrer la recette aujourd'hui parfaite en matière d'équilibre nutritionnel. Le maître mot dans tout ça, moi je trouve, c'est le mot théorie.
Théorie.
Tout simplement, théorie, oui. Trouver son régime alimentaire tout en recherchant l'équilibre et la santé, c'est en partie se tourner vers les propos de spécialistes scientifiques, des médecins et des diététiciens. Dommage, mais on en est souvent réduit à ça dans les sociétés dites modernes. On s'affole vite pour une fatigue, on se dit que c'est notre alimentation qui n'est pas assez riche en ci ou en ça, alors que juste on se lève 5 jours par semaine pour aller bosser, quoi. Et le milieu de la diététique joue beaucoup sur la peur, voire la menace. Attention, un excès de fer peut provoquer la dépression, par exemple. Et quand ce n'est pas l'oligo-élément qui peut se montrer menaçant, comme le fer, eh bien c'est le produit en lui-même. La guerre que livre l'industrie du lait de vache contre le lait de soja, et vice-versa, est sans merci, par exemple. À coup d'études autoproclamées scientifiques, on parle de cancer, de stérilité et plein d'autres maladies. Et en gros, on devrait croire aveuglément la science et faire des choix alimentaires qu'en fonction de ses résultats et de ses conseils. La théorie, c'est que le persil apporte de la vitamine A, que les lentilles apportent plus de protéines qu'une entrecôte de bœuf, ou que les brocolis sont une bonne source de calcium. Mais ça, c'est de la théorie.
Voilà, donc je voulais vous parler de diététique et de nutrition. Et en fait, je préfère inviter à vous faire une idée par vous-même, vous renseigner, expérimenter et puis faire le tri dans tout ça, en fait.
Ouais, peut-être ça aussi, expérimenter et puis écouter son corps, en fait, voir comment on réagit à tout ça et comment on se sent réellement, quoi.
Aussi.
Méfiez-vous des scientifiques, des diététiciens et des journalistes.
Et un petit conseil en cette période hivernale, si jamais vous êtes malade, angine, bronchite, etc., et que vous pensez que vous faible, et ben surtout vous tournez pas vers les produits laitiers parce que ça ne fera que augmenter votre infection et vous en trouverez que plus mal. Voilà, donc abandonnez la raclette en période d'hiver.
Alors,
eh ben on va s'écouter Propagandhi sur ces bonnes paroles avec voilà. Un titre qui s'appelle Nailing Descartes
to the world. C'est du punk
Allez,
rock.
Allez, c'est parti.
Stop consuming animals. I see the sign when it's recognized. The border between reason and insanity. I consider it a measure of my humanity to be written off by the living grace of a billion murdered lives. And I'm not ashamed of my recurring dreams about being a gun and a different species of carnage thrown about the stockyard factories of farm. So I know as well as anyone, it's a less good than. Deny that meat is still murder, dairy is still rape, and I am still as stupid as anyone, but I know my mistakes, and I have recognized one form of oppression, now I recognize the rest. Life's too short to make others shorter.
De retour sur les...
Vas-y, je t'en prie.
Bah, je voulais juste dire de retour sur numéro 0, voilà, sur voilà. Radio Dio.
Radio Dio, 89.5 FM.
Et en stéréo.
Voilà, donc on est toujours dans le numéro 0, émission spéciale conditions animales, végétarisme, végétalisme. Et donc après cet exposé informatif et néanmoins subjectif, puisque, méfiez-vous des journalistes, l'objectivité n'existe pas. Donc voilà, on voulait vous donner des infos de base et puis ensuite un peu aller interroger des personnes qui sont végétariennes, végétaliennes et qui donneraient leur point de vue à elles et leur expérience à elles. Donc on en a trouvé deux. Vous reconnaîtrez probablement la voix de Madame Zaza et puis voilà, il y a une autre personne aussi. Donc on va tout de suite s'écouter ça et puis on se retrouve dans les studios dans 23 minutes.
Alors la première question, tout simplement, c'est comment tu es devenue végétalienne ou végétarienne ?
Eh ben, en fait, moi, mes souvenirs, ça remonte à vraiment quand j'étais enfant, je savais ce que je mangeais, en fait, quand je mangeais de la viande, j'ai des vagues souvenirs que ça me posait quand même un peu question, que je trouvais ça étrange, Mais bon, comme c'était banalisé, voilà, dans la famille, on était assez viandards. J'aimais le goût de la viande. Je suis gourmande, j'ai toujours été gourmande. J'aimais ça. Je me souviens vaguement de quand même me dire « Ah, je savais quel animal je mangeais, quoi. » Je savais. À la télévision, en fait, je me souviens que j'étais à l'école primaire, mais je ne sais plus trop quel âge j'avais. J'ai vu une émission sur les abattoirs en France, je crois. Enfin, en tout cas, avec des images très dures. Ça m'a marqué, quoi, ça c'est sûr. Et à la suite de ça, j'avais demandé à ma mère alors, je ne sais plus si je l'avais formulé comme... Quoi, je voulais être végétarienne ou alors... parce que ça devait être dans le reportage à un moment donné où ils ont parlé de végétarisme. Donc que c'était possible de ne pas manger de viande. Donc je l'avais demandé à ma mère qui n'a pas compris qui m'a dit « Ben non, tu mangeras comme tout le monde. Non mais ça va pas la tête. Qu'est-ce qui te prend ?» Voilà, donc j'ai abandonné cette idée-là. Enfin, Après, c'est venu, je me souviens, au collège aussi, où j'ai eu un pote qui était végétarien. Et je trouvais ça chouette, mais j'ai pas creusé plus que ça. Et puis, quelques années plus tard, j'ai rencontré des gens véganes. On s'est rencontrés dans un contexte où c'était pas, enfin, juste, où on n'a pas juste parlé de végétarisme ou végétalisme, mais de questions politiques plus vastes. J'ai découvert en même temps le féminisme, l'anticapitalisme, voilà, tout ça. Donc c'est venu vraiment tout en même temps. Et d'un coup, ça devenait, je pouvais faire des choses concrètes en fait dans ma vie, dont un régime végétalien en fait, qui a pas été compliqué pour moi en fait de faire ce pas-là. Donc je suis même pas passée par la case végétarisme en fait, même si ça s'est fait petit à petit. J'avais déjà commencé depuis quelques années à diminuer ma consommation de viande, etc. Donc ça a été une suite logique en même temps.
Moi, quand j'ai eu 15 ans, à peu près, j'ai décidé que je serais végétarienne. Alors, j'avais, je pense, aucune idée des problèmes de l'élevage en masse et tout ça. Mais par contre, j'étais au lycée agricole. Et du coup, c'était assez difficile d'être à l'internat et de décider d'être végétarienne, surtout à l'internat en Auvergne, où il y avait vraiment plein de viande. Et moi, j'étais vraiment pas d'une culture où on mangeait plein de viande. Et du coup, j'ai assez mal mangé pendant longtemps, en décidant de n'enlever que la viande de tous les plats et de ne manger que les haricots verts. Et après, à partir de 18 ans, j'ai commencé à bosser en restauration. Donc, en fait, je mangeais quand même de la viande, mais j'avais surtout décidé de plus jamais en cuisiner moi, pour moi. Donc, je mangeais celle de l'école ou que ma mère préparait des fois, et j'en mangeais de moins en moins. Et à partir de 18 ans, j'ai commencé à travailler en restauration, et là, à manipuler de la viande industrielle par kilo et par kilo, à plus en pouvoir. Et au bout de la deuxième année de restauration, c'était plus possible en fait, la vision de la viande en elle-même. Et en ayant conscience du problème on va dire capitaliste de la viande, avec les abattages et l'élevage industriel, tout ça, mais surtout avec en fait ce contact avec la viande par quantité incroyable, qui a fait que c'était à un moment, ça n'a plus été possible, et j'ai définitivement arrêté de manger de la viande, ça, la deuxième année de travail en restauration.
Ok, ça fait combien de temps que vous êtes végétarienne et végétalienne ?
Ben, moi, si on compte depuis ce moment-là, ça fait 12 ans.
Moi, ça doit faire 3 ans et demi que je suis végétalienne.
La question que beaucoup de gens doivent se poser, c'est: mais n'avez-vous pas de carence alimentaire, de problèmes de santé liés à ce régime ?
Peut-être juste, je pourrais dire que moi, je n'ai pas, à ma connaissance, de carence alimentaire. Que je pense que la question de la carence alimentaire, elle se pose pour tout le monde, même des gens qui mangent de la viande. Il y a énormément de gens en fait qui ont des carences alimentaires et qui ne le savent pas. J'invite les gens à se renseigner là-dessus. Il y a énormément d'infos qui peuvent être là-dessus. Après, tous les ans, tous les deux ans, on peut faire un examen, hein, qui pour vérifier ça en fait, si on a des carences ou pas. Et après, au niveau du végétalisme, je connais des gens, ça fait 15 ans, qui sont végétaliens, végétaliennes, et qui sont en bonne santé.
Ben, moi, ça fait 12 ans donc que je suis végétarienne. J'ai pas de carence. J'en ai eu parce que j'ai travaillé en saison et que j'avais pas le choix que de manger des frites ou de la salade verte, parce que c'est tout ce qu'on me servait à manger. Et d'autre part, effectivement, il y a plein de gens qui ont plein de carences, parce qu'on ne va pas me dire... Souvent, quand on demande cette question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette question de « et t'as des carences, parce que tu manges pas de viande ?» Et toi, tu as des carences parce que tu manges des pizzas surgelées, parce que tu bois de la bière et que tu fumes des clopes toute la journée. Voilà. Et c'est pas les carrés de jambon qui sont dans ta pizza qui vont combler tes besoins en vitamine C. Voilà, donc tout va bien.
Ouais, je voudrais rajouter en fait que sans avoir de connaissances approfondies, même si c'est vrai que depuis quelques années, je m'intéresse plus à l'alimentation, je fais plus attention à ce que je mange, etc. Depuis que je suis végétalienne, j'ai jamais autant mangé. J'ai diversifié en fait. J'ai jamais mangé autant de légumes, autant de céréales, autant de légumineux. Voilà, à partir du moment où j'ai découvert que je pouvais me passer de viande, et, entre autres, je vois pas pourquoi je cautionnerais l'exploitation, la souffrance animale, alors que je peux très bien vivre sans. Et c'est vrai, c'est vraiment lié à l'exploitation, le fait que l'être humain soit au centre.
Moi, au tout début, c'était que ça, quoi. Quand j'avais 15 ans, là, je me suis dit, de toute façon, que l'humain valait bien peu de choses et que je participerais certainement pas à ça, que d'exploiter ces pauvres animaux qui devaient sûrement avoir très mal quand on les tuait. Mais après, c'était vraiment plus que juste un problème de souffrance animale, parce que de toute façon, je suis végétarienne et que ça veut dire que j'exploite quand même les animaux. Je participe à l'exploitation des animaux en mangeant et en achetant parfois du fromage ou des produits laitiers. Voilà. Du coup, c'est vraiment plus un tout que je vais condamner et... si je condamne cette exploitation-là, je sais que j'en condamne d'autres aussi.
Et alors l'industrie animale, enfin l'industrie de la viande, l'industrie des produits animaux, c'est des tueries en masse, des animaux en cage, etc. Mais si quelqu'un décide de tuer soi-même l'animal qu'il va manger, ou d'aller le chercher dans une ferme bio, où les animaux sont bien traités tout au long de leur vie, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous feriez ça? Ben non, j'ai pas envie de tuer d'animaux, parce que j'y vois pas d'intérêt, vu que je peux faire sans. Je conçois qu'il y ait des personnes qui aient peut-être moins le choix que moi. C'est vraiment une question de choix, de contexte, de tout ça. Enfin, et je trouve ça important de le prendre en compte, en fait.
Cette question, elle est vachement liée avec une question qu'on me pose super souvent, par contre, qui est, oui, mais à la base, l'homme, l'être humain, sous-entendu, est carnivore. Donc voilà, la question super naturaliste, comme si déjà l'être humain était effectivement carnivore à la base, ce qui déjà n'est pas vrai, mais en plus, comme s'il fallait pas changer. Surtout ne pas changer et rester carnivore, parce que c'est comme ça qu'on a survécu à la préhistoire. Et du coup, moi, je réponds souvent, oui, mais on est aussi doté d'un cerveau et on peut réfléchir et choisir ce qu'on décide de manger ou pas et de comment on décide de le faire. Donc si je décide de ne pas participer à l'exploitation animale en mangeant pas de viande, je ne vais pas non plus participer à un massacre d'animal bio parce que cette exploitation-là, je ne vais pas dire à quelqu'un, bah, t'aurais bien pu avoir des esclaves s'ils étaient bio. All love, all love.
Est-ce que faire ce choix, ça nécessite d'avoir plus d'argent pour manger mieux? En fait, dans un sketch, il y a cette question, pour un super champion, qui dit « Comment appelle-t-on les gens qui ne mangent pas de viande ?» Et la réponse, c'est « Les pauvres ». La viande, ça coûte super cher. Après, ça dépend plein de choses. Ça dépend les gens, s'ils achètent des plats tout faits. Moi, du coup, en changeant mon alimentation, j'ai aussi fait le choix de préparer moi-même mes repas, en fait. Enfin, j'achète jamais des trucs tout.
étouffée et tout. Et du coup, non, les légumes, les fruits, les céréales, ça coûte pas plus cher, en fait.
Et par exemple, il y a des associations dont le but, c'est de faire interdire la viande, ou faire interdire l'élevage en batterie, ou faire interdire...
Les expériences sur les animaux, par exemple, aussi.
Est-ce que c'est un moyen de lutte qui vous intéresse ?
J'irai jamais lutter pour créer des lois, en fait. Donc, j'agirai en sorte que ça se termine, mais je n'irai pas faire des lois pour ça.
Moi, je crois plus à informer, en fait, ce que je disais tout à l'heure. Je suis plus pour que les gens soient informés et fassent des choix plutôt que interdire, imposer des choix. En fait, donc les interdictions en général, ça me, je suis pas, ouais, c'est pas quelque chose qui me parle, quoi.
Et en fait, il y a une autre manière aussi d'agir. S'il y a des gens, ils mettent des cagoules et puis ils vont libérer des animaux dans les laboratoires où on fait des tests sur les animaux, ou bien ils vont attaquer des gens qui profitent de l'exploitation des animaux. Qu'en pensez-vous ?
Ouais, les premières infos que j'ai eues là-dessus. Quand j'ai commencé à vivre dans des squats, c'était les magazines de l'ALF, qui est le Front de Libération Animale anglais. Et du coup, je tiens à dire que je soutiens particulièrement ces personnes, et que ces genres d'action est nécessaire dans la lutte globale qu'on va mener contre l'exploitation animale en particulier. Et si violente soit-elle, elle n'est jamais aussi violente que ce qui est fait dans l'exploitation animale. Donc, aucun problème.
Alors, vous vivez avec des animaux domestiqués ou pas?
Donc, je vis aussi avec des animaux. Et je vis avec un chien qui est entre guillemets à moi, ce qui n'est pas un choix facile, puisque j'avais essayé d'avoir une réponse toute prête à cette question sur la domination de l'homme sur son animal domestique, et en fait j'en ai pas, parce que c'est pas si simple de répondre à ça, et surtout avec les idées que j'ai, c'est sûr. Je l'ai eu petit, et c'est un chien qu'on m'a donné. Et au début, je me suis complètement pliée à toute la propagande qu'il y a sur l'éducation des animaux. Donc, quel genre de nourriture il faut leur donner. Donc ça, c'est les vétérinaires qui te disent quel genre de nourriture il faut absolument donner à tes animaux. Et puis surtout, il faut que ce soit industriel. Et aussi de comment il faut l'éduquer, en imposant une relation dominée à dominant. Nécessaire, comme si c'était nécessaire. Au bout de 6 mois, je me suis aperçue que c'était faux, tout ça, et que c'était pas vrai, que j'étais pas obligée d'agir comme ça, que j'étais pas obligée d'ouvertement voir comme il te le conseille des fois, je trouve violemment dominer l'animal, et j'étais pas non plus obligée de lui imposer de la nourriture industrielle de croquettes qu'on nous disait qu'il fallait qu'il mange pour être en bonne santé. Je précise quand même que dans la quasi-totalité des marques de croquettes connues et en plus recommandées par les vétérinaires, il y a des produits à l'intérieur qui leur donnent une addiction. Alors, des glutamates, c'est sûr. Et puis, par exemple, pour une marque comme Friskies, il y a de la taurine. Donc, la taurine, ça fait des chiens qui sont en pleine forme, qui courent super vite, qui ont une énergie de fou. Mais en fait, c'est une drogue. Ils sont hyper sensibles aux excitants et ils se permettent de mettre ça dans la nourriture. Et puis très vite, je me suis mise à lui faire sa nourriture moi-même, et aussi donc à essayer de me renseigner comment lui faire de la nourriture sans qu'il soit forcément obligé de manger de la viande tout le temps, parce qu'il faut savoir qu'on a le même mythe autour des chiens particulièrement, c'est que non, ils ne sont pas carnivores à la base, et qui sont tout à fait aptes à digérer et à métaboliser des végétaux et à en faire de la protéine. Alors, ils en mangent en plus grande quantité que nous, donc il faut adapter, il faut connaître, il faut finir par connaître comment ils mangent. Ce qui fait que mon chien, ça fait
deux ans et demi que, alors des fois il mange des croquettes parce que ça, comme pour moi, hein, je suis fatiguée et j'ai pas spécialement envie, mais la plupart du temps je lui fabrique une soupe ménagère, comme vont dire les vétérinaires, qui font vraiment la gueule quand on leur dit que c'est nous qui leur besoin à manger, parce qu'ils n'ont pas confiance. Et quand je récupère la viande dans la récup, ou que je me la réapproprie d'une façon ou d'une autre, je lui en mets dans sa soupe. Quand il n'y en a pas, il n'en mange pas. Et ça fait deux ans et demi. Alors peut-être qu'il n'est pas encore à l'âge des carences, on va savoir après. Mais je peux vous assurer qu'il est en pleine forme.
Enfin, bon, en tout cas, tu n'as pas l'impression de lui imposer quelque chose?
Bien sûr que si. Je lui impose de toute façon, je lui impose en gros depuis qu'il a un mois et demi de vivre avec moi, je lui impose de manger au rythme que je lui donne de manger et je lui impose, au départ je lui imposais des croquettes dégueulasses fabriquées dans l'industrie et maintenant je lui impose une nourriture que je lui donne. Après la réflexion, il faudrait qu'elle aille au-delà de ça et bien plus loin que ça. Ceci dit, je pense que du coup je fais beaucoup plus attention à ce que je lui donne à manger, même si c'est imposé. Et que d'autres gens qui vont juste verser des croquettes dans une gamelle sans se demander ce que mange leur animal. D'une façon, j'ai un rapport de domination avec mon chien, puisqu'il est hyper dépendant de moi, et pour plein de raisons, voilà, comme je disais, je le vaccine, tout ça. Mais je suis, de toute façon, je suis contre ce truc-là, mais je suis aussi contre le fait que le pull que j'ai acheté, il est fabriqué en Chine par des gens que je ne veux pas exploiter. C'est un tout, hein, c'est un tout, et j'ai plein de contradictions, c'est clair, comme... je pense tout le monde, mais j'en suis consciente et dans ma vie, j'essaie de faire les choses en sorte que ça change.
Beaucoup de gens, en fait, travaillent à plein temps pour toucher un salaire qui leur permet de consommer. Mais alors du coup, moi, j'ai plein de critiques sur le fait de consommer quoi, en fait, des tas de choses que je trouve inutiles dans la vie. Alors que moi, j'ai plutôt fait le choix de ne pas travailler, donc d'avoir peu d'argent, mais du temps pour plutôt fabriquer ou des choses, en fait, plutôt que de les acheter. Je consomme vraiment peu par rapport à la moyenne. Ce qui est important, c'est qu'on soit libre, en fait, de faire ce qu'on veut, et en même temps je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui mangent de la viande pas par choix réel, en fait, mais parce que pour le coup là il y a de la propagande, il y a des gens qui exploitent et qui vendent de la viande et ça leur apporte beaucoup d'argent et quand je vois des campagnes publicitaires qui font croire aux gens que manger de la viande, c'est important pour la santé, manger des produits laitiers, pour les enfants surtout. Il y a énormément de publicités là-dessus qui sont mensongères. Enfin, parce que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas obligatoire. Enfin, oui, je crois que si vraiment les gens se rendaient compte de ce que ça veut dire, de manger de la viande, en fait. S'ils savaient d'où ça vient, comment ça se passe réellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feraient le choix de plus en manger. It's all love, it's all love.
Only ripe vegetables, fresh fruit and whole wheat. I'm from the old school, my household smell like soul food, bruh. Curry falafel, barbecue tofu, no fish though, no candy bars, no cigarettes, only ganja, fresh squeezed juice from oranges. Exercising daily to stay healthy, and I rarely drink water out the tap cause it's filthy.
Lentil soup is mental fruit, and ginger root is good for the youths. Fresh vegetable with them Ita stew.
sweet yam fries with the green callaloo. Careful how you season and prepare your foods, cause you don't wanna lose vitamins and minerals, and that's the jewel. Life brings life, it's valuable, so I eat what come from the ground, it's natural. Let your food be your medicine, no accelerant, strictly herbs generated from the sun, cause I got melanin and drink water. 8 glasses a day, cause that's what they say.
They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. Be healthy, y'all.
Yeah, hold the fuck up, yo. Take this little intermission. Listen what the fuck we got to say, you know. World is born, son. Niggas been living fat for too long, know what I'm saying? Smoking bogeys, fucking drinking all types of shit. Wailing out, not giving a fuck what they put in their bodies, son. Know what I'm saying? About time niggas start thinking about that shit, son. Know what I'm saying? That shit is fucking making us deteriorate, son. Word up, we got to care about our little babies and shit, son. Niggas got kids to raise. Straight up, you gotta start learning yourself, learning about your health, son. Learning this world we live in, kid, know what I'm saying? It's time to start changing all that shit, God, word up. So I'm gonna leave y'all niggas on some shit like that, you know what I mean?
Voilà, c'était Dead Prez qui chante comment ils sont vegan et qu'ils ont une vie très très saine.
À base d'eau et de sport.
Et de weed aussi, biologique.
Et ben voilà, c'était messieurs sur le végétarisme et le végétalisme touche presque à sa fin. Vous avez une conclusion, je crois.
Déjà, moi, je vous invite à aller, par exemple, sur Internet. Et juste en cliquant recettes végétariennes et végétaliennes, vous tomberez sur des centaines de milliers de recettes magnifiques. C'est pareil, même dans les bibliothèques, il y a souvent aux sections livres de recettes des recettes végétariennes. Et voilà, et pour les personnes qui voudraient approfondir un peu l'antispécisme, il y a... une personne qui est fortement recommandée, qui s'appelle Peter Singer, et vous trouverez ses livres hyper facilement aussi. Voilà.
Qui a écrit, ceci dit, des choses un peu à controverse. Mais bon.
Oui, mais qui ouvre en tout cas à la réflexion. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. En tout cas, il y a des points super intéressants. Et peut-être qu'on aura l'occasion de faire une critique plus approfondie dans une émission suivante.
Exactement. C'est comme ça que je voulais rebondir. Peut-être toi, tu voulais rebondir.
Bah, je sais pas, moi je peux juste rajouter un site internet, je suis désolé, mais ceci dit, il existe de la littérature véritablement papier aussi à ce sujet-là. Bon bref, sinon il y a un site qui est, moi, que je trouve intéressant, parce que il fait aussi la part des choses en termes d'information, c'est-à-dire que tout à l'heure on a fait un exposé assez complet et vaste, mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, et en tout cas c'est un site qui donne beaucoup d'informations, et voilà, comme je disais, qui fait la part des choses, et c'est un site qui s'appelle... Veganimal, le site c'est www.veganimal.info. Voilà.
Voilà.
Et je trouve très très intéressant.
Et donc justement, mon rebondissement, c'était d'en rajouter par exemple dans le site du numéro 0, le numéro 0.l'autre.net, il y a aussi eu beaucoup d'articles publiés d'une association qui s'appelle L214, voilà, sur la condition des animaux. Élevé en France, et c'est intéressant. Après, pareil, moi, il y a des trucs qui me plaisent, il y a des trucs qui me plaisent pas, non, ce qu'ils font. Et justement, là, le rebondissement tant attendu, c'est pour dire et conclure que oui, il y a plein de points de vue différents, en fait, à chacun de se faire le sien. Sur le végétarisme et le végétalisme, il y a plein de raisons de l'être, il y a des débats, des choses plus ou moins polémiques. Et on espère, un jour ou l'autre, vous refaire une ou plusieurs émissions en faisant contribuer en fait plein de gens qui auraient envie de donner leur point de vue, qui seraient végétariens, végétaliens. Donc n'hésitez pas à nous contacter, soit directement à la radio, soit sur l'adresse email émissionradio tout attaché sans accent @fastmail.net. émissionradio@fastmail.net.
Voilà, n'hésitez pas vraiment
à participer,
mais vraiment, c'est parce qu'on a vraiment envie de faire une deuxième partie sur cette question-là. Et on peut profiter de votre contribution, ce serait super bien.
Voilà. Et ben, c'est l'émission numéro 0 qui touche à sa fin, qui sera rediffusée aujourd'hui à 17h. Et nous, on va se retrouver dans 15 jours, jeudi, midi.
Ouais, et il paraît que donc le lait de soja, ça rend stérile, quoi.
Ouais, mais...
Oh, mais ça, Chantal G le disait bien, et on va l'écouter tout de suite.
Salut.
Il paraît que la démocratie, ça rend stérile. Et la révolution aussi.
De l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de mortes fontaines, où vont à mortes saisons, tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Comme si cette injustice